France Musique. Carrefour des Amériques, Marcel Quillé-Véré.
Le Brésil, la musique et le monde, c'est le 19e chapitre. Le Brésil à la croisée des chemins, Paris, Montréal et Broadway. Bienvenue à toutes et à tous. Et cette émission commence dans un cadre idyllique, le superbe casino de Urca sur une petite plage à Rio de Janeiro. Et il ne désemplit pas après la guerre, car sur scène, le chanteur de charme Dick Farney, qu'on appelle le Frank Sinatra brésilien, fait chavirer les cœurs avec la nouvelle chanson Copacabana. Copacabana, princesinha do mar. Copacabana, ma petite princesse de la mer. C'est elle qui va rendre Dick Farney plus populaire que jamais aux États-Unis, surtout quand il va y résider, après l'avoir enregistré en 1946, et les disques s'arrachent. 3 ans plus tard, un groupe de jeunes crée à Rio un fan club qui réunit les deux chanteurs, le club Sinatra Dick Farney, qui aura une grande influence sur la musique populaire brésilienne jusqu'à la bossa nova et le tropicalisme dans les années 1960.
Nenhuma tem o encanto que tu possui. Tuas areias, teu céu tão lindo. Tuas sereias, sempre sorrindo. Copacabana, princesinha do mar. Pelas manhãs tu és a vida cantar e a tardinha ao sol poente deixas sempre uma saudade na gente. Copacabana, o mar eterno cantor. Ao te beijar, ficou perdido de amor. E hoje vive a murmurar, só a ti Copacabana eu hei de amar.
Le Rio de Janeiro de l'insouciance et de la joie de vivre dans le Brésil de l'après-guerre, où la culture connaît un nouvel essor dans la paix retrouvée. Le théâtre notamment connaît une véritable renaissance. La tournée du français Louis Jouvet 2 ans auparavant y est pour beaucoup. En 1943, l'acteur d'origine polonaise Zbigniew Zibinski révolutionne le théâtre brésilien en créant avec sa compagnie des Comediantes la pièce du grand dramaturge Nelson Rodriguez, Vestido de Noiva, traduit en français sous le titre La robe de mariée, qui marque le début du théâtre moderne dans le pays. La France revient en 1945 grâce à Emmanuel Dacier de la Vigerie, qui a fondé à Paris en collaboration avec l'ambassade du Brésil une compagnie française d'art dramatique sous la direction artistique de Jean Marchat, avec des acteurs comme Gisèle Casatsu, Madeleine Robinson, Claude Nollier, dans les superbes scénographies de Jacques Dupont. Cette compagnie présente 14 spectacles du 4 au 18 juillet au Théâtre municipal de Rio. Lors de la première soirée, avant l'Antigone de Jean Anouilh, Jean Marchat lit un fameux texte de Paul Claudel, récemment allié à De Gaulle, « Les poètes de la résistance ». C'est un message qu'il adresse, dit-il, au Brésil. Quant à Villa-Lobos, il fête lui aussi la France libérée, même s'il est tout à son rêve américain depuis son séjour à New York. Et c'est là-bas, précise-t-il, qu'il a composé sa fantaisie pour violoncelle et orchestre, créée à Rio en septembre 1946. Il l'a dédiée au chef d'orchestre Serge Koussevitzky. C'est Janos Starker qui l'interprète ici, avec l'orchestre symphonique de l'État du Paraíba, dirigé par Eleazar de Carvalho. Villa-Lobos semble même y esquisser un tango dans la lumière radieuse de New York. Le troisième mouvement de la fantaisie pour violoncelle et orchestre de Aitor Villa-Lobos. Comme le théâtre, c'est toute la littérature qui est à un grand tournant de son histoire au Brésil, notamment le roman. Jorge Amado publie Ceará Vermelha, l'état du Ceará rouge, intitulé en français Les chemins de la faim. Ce roman va assurer sa popularité. Il y évoque les souffrances des populations misérables du Nord-Est qui, à l'époque de la sécheresse, tentent d'atteindre São Paulo à la recherche d'un travail. Une très jeune écrivaine aussi se fait remarquer, Clarice Lispector, qui publie son roman Lustre, qui ne ressemble décidément à aucun autre. Et puis, une nouvelle star du théâtre est née. L'actrice et chanteuse Bibi Ferreira, qui met en scène Rebecca de Daphné du Maurier au Théâtre Phénix. Elle a 24 ans et va devenir l'une des plus grandes comédiennes brésiliennes. Elle nous a quittés en février 2019. En 2004, elle enregistrait un dernier disque, des tangos argentins accompagnés par son ami, le pianiste Miguel Proença. Elle avait 76 ans. Elle reprenait là une tradition lancée par Dalva de Oliveira dans les années 1950, celle des grandes interprètes brésiliennes de tango, comme ce Mano a Mano de Carlos Gardel, qu'elle interprète ici.
Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones. Te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones, se te ha entrado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano amable, hemos quedado. No me importa lo que has hecho, lo que haces y lo que harás. Los favores recibidos creo habértelos pagado, y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del notario que tenés se la cargas. Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riquezas y placer, que el bacán que te acamala tenga pesos duraderos, que te abracen las paradas con cafillos milongueros y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana cuando sea descolado mueble viejo y no tengas esperanza en el pobre corazón, si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión.
Merveilleuse Bibi Ferreira. C'est le 31 janvier 1946 que le général Dutra, qui a soutenu longtemps les forces de l'Axe durant la guerre, est devenu le 16e président du Brésil, un poste qu'il occupe jusqu'en 1951, et cela grâce à l'onction de Getúlio Vargas, même si l'heure est à la liquidation de sa dictature. Vargas, de son côté, a été élu sénateur et n'a pas dit son dernier mot. Dutra, comme lui, ne transige pas avec la morale. Le 30 avril, il interdit les jeux de hasard. Et les casinos ferment, notamment le plus célèbre, celui du Copacabana Palace. Mais plus important, il décide de prendre en main la croissance industrielle face à la forte demande intérieure et de coopérer intensément avec les États-Unis. Ainsi, le 13 août, le président Eisenhower est en visite officielle. Entre-temps, le Canada, qui est sorti renforcé de son engagement durant la guerre, est devenu une nouvelle puissance mondiale. Et il entre en scène, lui aussi, au Brésil, grâce à son premier ambassadeur là-bas, Jean Desi. Grand professeur universitaire, il est au Brésil depuis 5 ans, quand il invite le compositeur québécois Claude Champagne pour une tournée de concerts et de conférences pendant 2 mois. Elle marque l'ouverture des relations culturelles entre l'Amérique du Sud et le Canada. À son arrivée le 22 juillet 1946, il est accueilli par Villa-Lobos. Villa-Lobos qui, grâce à un professeur d'une école de musique de Rio, a réuni 1000 élèves du programme d'éducation qu'il a mis en place pour interpréter, en l'honneur de Claude Champagne, des chants folkloriques brésiliens. Champagne qui, à son tour, les fait tous rêver quand il leur parle de la belle province de son Québec natal.
Thank you.
la danse villageoise de Claude Champagne, le compositeur québécois, et c'est Yoav Talmi qui dirigeait l'Orchestre symphonique du Québec. Claude Champagne est invité à donner 8 cours magistraux au professeur d'éducation musicale de Rio. Puis le 18 août, le chef d'orchestre franco-américain Jean Morel lui cède la baguette pour diriger la deuxième partie d'un concert de l'Orchestre symphonique du Brésil, juste avant la tournée qu'il effectue à travers le pays. Le 10 novembre, c'est la pianiste québécoise Hélène Ballon qui crée à Rio le premier concerto pour piano et orchestre de Aitor Villa-Lobos, une œuvre qu'elle lui a commandée. Hélène était née en 1898 à Montréal de parents lituaniens et avait surtout étudié avec Clara Lichtenstein, une élève de Franz Liszt, à l'université McGill, avant de se perfectionner à New York. Elle crée ensuite le concerto aux États-Unis à Dallas en 1947 sous la direction d'Antal Dorati, puis la même année à Montréal avec Désiré Defoe à la baguette. Montréal, où Villa-Lobos va diriger en 1952 un concert de musique latino-américaine dont plusieurs de ses œuvres à l'Auditorium du Plateau dans le parc La Fontaine. Hélène Ballon est morte au Québec en 1969. C'est ici la Brésilienne Cristina Ortiz qui interprète le troisième mouvement de ce concerto pour piano et orchestre numéro 1 de Villa-Lobos avec le Royal Philharmonic Orchestra au pupitre Miguel Gomez Martinez.
Thank you.
Cristina Ortiz au piano dans l'andante du concerto numéro 1 de Villa-Lobos. À Rio, en 1946, de grands chefs viennent diriger l'Orchestre symphonique du Brésil. D'abord Eugène Ormandie pour 4 concerts en juin et en juillet, suivi de Charles Munch qui remet la musique française à l'honneur, notamment quand Magda Taliaferro interprète les concertos de Maurice Ravel et de Reynaldo Hahn. 5 mois plus tard, Villa-Lobos entreprend son second voyage aux États-Unis, en compagnie de Mingini, à son épouse. Il est secondé là-bas par le pianiste Vieira Brandão, qui vient de terminer ses études à l'université de Los Angeles. Vieira Brandão, qui est aussi le soliste le 19 février de la création américaine des Baquianas numéro 3 avec l'orchestre de la radio CBS sous la direction de l'auteur. Et puis l'ami du compositeur, la soprano Olga Coelho, qui vit à New York, crée au Town Hall sa transcription pour chant et guitare de ses fameuses Baquianas numéro 5. C'est durant son séjour qu'il reçoit la commande d'une comédie musicale, une aventure qui le passionne aussitôt. Faith Esham dans le chant au Teru, l'oiseau mythique de la forêt vierge, extrait de Magdalena, cette comédie musicale dont Villa-Lobos reçoit la commande aux États-Unis. Il se trouve qu'en 1944, deux directeurs de théâtre, Edwin Lester à l'Opéra de Los Angeles et Homer Caron au Civic Light Opera, consacrés surtout au théâtre lyrique plus léger, ont eu l'idée d'adapter des musiques célèbres de grands compositeurs pour des comédies musicales plutôt exotiques, montées à Los Angeles et à New York. Cette année-là, ils ont conçu The Song of Norway, le chant de la Norvège, sur des thèmes d'Edward Grieg, avec les musiciens et paroliers George Forrest et Robert Wright. Après la Californie, l'œuvre tient l'affiche jusqu'en 1946 à Broadway. L'année suivante, ils cherchent un nouveau titre et un nouveau compositeur. Le concert de Villa-Lobos en Californie est encore dans toutes les mémoires. Il demande alors aux deux paroliers de sélectionner des musiques du compositeur brésilien qu'ils adapteraient au livret que vient d'écrire Homer Caron, dont l'intrigue se déroule en Colombie, au bord du fleuve Magdalena. Quand ils apprennent que Villa-Lobos est à New York, Forrest et Wright le rencontrent aussitôt. L'action qui se déroule dans une communauté indigène dans la forêt vierge et aussi à Paris a tout pour plaire au compositeur brésilien. De plus, l'idée de réaliser un arrangement d'anciennes compositions à la manière de Broadway l'amuse beaucoup, et il aime le choix qu'ont fait les deux New-Yorkais. C'est alors dans leur appartement qui domine Central Park que ces derniers vont collaborer pendant 7 mois, avec Villa-Lobos, le pianiste Vieira Brandão et Mingini, qui est chargé de copier la partition chant-piano. Puis, ils vont la jouer et la chanter aux critiques du New York Times, Olin Downs, qui est totalement emballé. C'est à Rio que Villa-Lobos réalise l'orchestration. Avec Magdalena, il devient un compositeur américain à part entière, un compositeur qui chante toutes les Amériques. Au début de l'œuvre, il y a une scène très touchante où les Indiens accomplissent leur rituel panthéiste autour de ce qu'ils appellent l'arbre qui chante. Quand dans la forêt, à la clarté de la lune, leur voix et leur danse accompagnent le ramage des oiseaux qui s'éveillent. Faith Isham et Kevin Gray avec le chœur du Connecticut et l'orchestre de la Nouvelle-Angleterre dirigé par Evans Hale.
Carrefour des Amériques, une série de Marcel Quillivéré pour les médias francophones publics.
Alors que les répétitions vont commencer à Los Angeles, c'est au dernier moment que le metteur en scène est choisi. Jules Dassin, qui vient de faire des débuts remarqués au cinéma. La première est prévue le 26 juillet 1948 à Los Angeles, mais cette année-là, Villa-Lobos doit se faire opérer à New York d'un début de cancer et ne peut pas se rendre en Californie. C'est à l'hôpital qu'il apprendra le grand succès public. Il y aura 35 représentations à Los Angeles et à San Francisco. C'est le 20 septembre que l'œuvre est reprise au Ziegfeld Theatre à New York. Villa-Lobos se remet alors de son opération dans une ferme du Connecticut et il peut être présent à Broadway. L'action de Magdalena se déroule en Colombie avant la Première Guerre mondiale au sein d'une communauté indigène dans les forêts qui dominent le port de Honda au bord du fleuve Magdalena. Le père, José, célèbre un service dans un sanctuaire construit par les Indiens sous l'impulsion de leur chef, la belle Maria, qui prêche l'amour contre la haine pour vivre en paix et en harmonie. Et même si ses congénères sont parfois bien dissipés, même devant la petite église, elle sait toujours les ramener à la raison.
Thank you.
C'est ici Charles Dumsel qui chantait le rôle du père José. Les Indiens travaillent dans les mines d'émeraude qui appartiennent toutes au général Carabagna, militaire sans scrupules, qui, à l'image de plusieurs dictateurs latino-américains, passe une partie de l'année à Paris où il festoie sans arrêt. Grand gourmet et plutôt glouton, il s'est entiché de Thérèse, Teresa, pétulante tenancière du cabaret La Petite Souris Noire, qui sait le tenir dans ses griffes par son talent de cuisinière. La deuxième scène s'ouvre sur une grande fête organisée par Teresa en l'honneur de son gros bouffon d'amant. Son entrée sur un tango hispanique avec Castagnette Zapateado est un des numéros les plus applaudis. Il est intitulé « Food for Thought », c'est-à-dire en français « De quoi donner à penser et à réfléchir ». Mais ça peut aussi vouloir dire littéralement « Au lieu de réfléchir, mettons-nous à table ». Loin des femmes qui gémissent quand elles ne séduisent plus leur homme, chante-t-elle. Moi, pour garder le mien, je me mets à mes casseroles et je mijote. Toujours l'amour, c'est de la foutaise, moi je dis toujours la soupe. Tout cela en français dans le texte. La pétulante Judy Kay dans le rôle de Teresa. En Colombie, Pedro, le fiancé de la belle Maria, qui conduit le seul bus de la région, notamment pour accompagner le père José dans ses missions, incite les Indiens à se rebeller contre leur exploiteur Carabagna et à faire grève. À Paris, le major Blanco avertit le général de ce qui se trame. Et ce dernier décide illico de rentrer dans son pays, avec Teresa bien sûr, à qui il fait miroiter les émeraudes de ses mines. Et pour l'occasion, Villa-Lobos fait chanter à Thérèse et au chœur un bel au revoir à Paris sur le thème de sa valse de la douleur. Le tableau suivant se déroule en Colombie, au bord du Magdalena, où les Indiens attendent la venue de Carabagna. Un vieil homme chante la splendeur passée du fleuve sur la mélodie d'un chant de batelier de la région de Bahia, adapté par Villa-Lobos. Pedro, qui n'aime guère la piété de sa tribu, s'est accoquiné avec la tribu adverse des Chivos. Le chant du Magdalena l'ennuie, il veut mettre un peu d'animation. Il fait alors marcher le piano mécanique déglingué d'un petit bar de fortune et danse avec ses amis Chivos. Cette scène a beaucoup marqué Leonard Bernstein, qui était présent dans la salle. Il s'en souviendra en composant West Side Story et Candide.
The snow.
Les ténors Jerry Hadley et Kevin Gray avec le chœur du Connecticut dirigé par Evans Hale. Leonard Bernstein avait cette année-là le projet d'une comédie musicale qui serait une sorte de Roméo et Juliette à Manhattan. Il aime beaucoup Magdalena et comme les critiques et les musiciens, il a été très impressionné par cette scène au bord du fleuve quand le vieux noir chante sa chanson interrompue par le piano mécanique. Et il a revendiqué ce modeste héritage en composant plusieurs scènes de West Side Story, notamment le prologue où on retrouve ce genre de rupture musicale. On en écoute un extrait juste après la scène de Magdalena. Ce face-à-face est un peu artificiel, bien sûr. Mais il permet de comprendre combien l'Américain qui chantait Porto Rico à New York avait découvert avec passion la musique du Brésilien à Broadway. Après cet extrait de Magdalena, c'était donc Leonard Bernstein qui dirigeait ici l'Orchestre Philharmonique de New York dans cet extrait de West Side Story. Revenons donc à l'histoire de Magdalena quand Pedro et les Indiens Chivos se sont enfin calmés. Voilà qu'apparaît soudain Maria à la tête d'un étrange cortège. Animée par sa foi en l'amour et la compassion, elle arrive au port avec des Indiens portant la Madone en procession. Elle pense ainsi attendrir le général Carabagna et le rendre sensible aux souffrances des travailleurs de ses mines. Pedro n'en revient pas de tant de naïveté. Et cette religiosité devient pour lui une superstition dangereuse. Il est prêt à faire voler la Madone par les Chivos qui envahissent à nouveau la scène. Maria les chasse et Pedro, par amour pour elle, leur demande de ne pas intervenir. Mais dans la nuit, les Chivos contreviennent à ses ordres et dérobent la statue. Maria accuse alors Pedro qui la supplie de lui pardonner, mais elle préfère prier le ciel de le faire revenir à la raison et à la foi au nom de leur amour, alors que Pedro ne cesse de l'implorer. C'est l'un des plus beaux airs de la partition.
God in heaven, forgive him, forgive him.
I could drive away. Carabagna has no power over me. But always, I remember the jungle huts. crawling to Carabagna's foreman.
Forgive me my shame and my fault, for I am lost till your return.
Back I come, big stupid Pedro. I hide my shame. Man must strike back, or he will no longer enjoy to be a man. I will keep the lady till we settle with Carabagna. Despise me, but stop praying. Put a whip in your hand, an axe, but stop praying.
La soprano Faith Isham et l'orchestre de la Nouvelle-Angleterre dirigé par Evans Hale. Le général Carabagna, inflexible, a déclaré l'état d'urgence. Pedro a convaincu les Indiens d'unir leurs forces pour le combattre et ils chantent tous la lutte pour la liberté. Dans son hacienda, Carabagna a organisé une fête et son médecin lui conseille de modérer son appétit car une indigestion pourrait lui être fatale étant donné son obésité et son taux de cholestérol. Entre-temps, il n'a Dieu que pour Maria et il lui a promis le collier d'émeraude qu'il réservait à Thérèse. De plus, il a décidé de l'épouser afin de calmer la rébellion. Sa cuisinière de maîtresse apprend tout cela et elle prépare sa vengeance, en l'occurrence sa pièce de résistance, comme elle l'appelle en français. Une débauche de plats sublimes auxquels Carabagna ne résiste pas, au point qu'il meurt à table, quasiment étouffé. Et Thérèse en profite pour lui dérober le collier d'émeraude.
Yes.
Entre-temps, Maria s'est jointe à la rébellion et elle a annoncé sa rupture à Pedro. Ce dernier, totalement effondré, s'enfonce dans la forêt. On entend bientôt au loin une explosion. Son bus a été dynamité sur ordre de Carabagna. Maria et la tribu l'apprennent avec stupeur et ils se réunissent au sanctuaire pour prier toute la nuit. Alors que l'aube se lève, un chant retentit. C'est Pedro, ensanglanté, qui revient avec la statue. Maria lui redit son amour alors qu'il s'effondre dans ses bras. Le Padre José bénit sa générosité. L'œuvre a été créée en France au Théâtre du Châtelet à Paris en 2010 et la mise en scène laissait planer le doute sur la chance de survie du jeune Pedro. La comédie musicale s'achevait sur cette scène très poignante alors que revenait le thème des Baquianas Brasileiras numéro 4 qui avait parcouru toute l'œuvre. On se sépare aujourd'hui sur l'émouvante scène finale de la comédie musicale Magdalena de Aitor Villa-Lobos et on se donne rendez-vous bien sûr dans le prochain épisode de Carrefour des Amériques, une émission des médias francophones publics réalisée par Béatrice Trichet à la technique Bernard Laniel, attaché de production Nelly Portal, une émission qu'on peut bien sûr écouter ou réécouter en podcast.
À réécouter sur francemusique.fr.